Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VO Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, bien sûr, sur la page Facebook de VO Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Eugène Péoua Pelema ici aux États-Unis. Eugène, bonsoir.
Bonsoir, Yacouba. Toujours un plaisir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Également avec nous, Amine Birouk, depuis le Maroc. Hein. Amine, bonsoir. Je suppose que vous êtes toujours à Laayoune.
Bonsoir, Yacouba. Bonsoir à tous. Effectivement, à Laayoune, à deux jours des demi-finales de la CAN de futsal.
Merci, Amine, d'être avec nous. Jules Valentin Ngoué est en direct depuis Libreville, au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir, Yacouba. Bonsoir à tous.
Et donc, d'ici là, on aura Amdine Si. Valdo Yamba Yamba et également Élisée Moukatine peut-être. Hein. Kansas City et son quarterback Patrick Mahomes ont réussi un formidable comeback pour remporter le 54e championnat de football américain devant donc San Francisco battu 31 à 20. Kansas City a ainsi remporté le deuxième titre de son histoire à Miami. Lors d'une finale à suspense, l'équipe du Missouri met un terme ici à 50 ans de disette depuis son premier sacre face à Minnesota et succède au palmarès à New England. Alors Eugène, les choses avaient pourtant mal commencé pour les Chiefs.
Oui, bien sûr, les 49ers de San Francisco avaient, du moins, l'équipe d'abord de Kansas City avait pris le devant, mais l'équipe de 49ers a pris la mesure de ce match et a pu contrôler le match. Et je pense qu'à 6 minutes de la fin, on pensait que c'était déjà plié, mais le sport étant, collectif étant un jeu de stratégie, il y a l'attaque et la défense au football américain, les gens ne le savent pas, l'attaque rentre l'adversaire sur la défense. Et ça fait la très grande différence. Et les deux erreurs commises par l'équipe de San Francisco leur a coûté cher à la fin. Ça a été le quarterback de Kansas City en a profité. Et ils ont pu scorer les points qu'il fallait pour gagner cette partie.
Alors justement, Eugène, ce triomphe de Kansas a un visage juvénile, celui de Patrick Mahomes, le jeune quarterback, vous le disiez tout à l'heure, des Chiefs de Kansas.
Oui, il est très jeune. Je crois qu'il a 24 ans.
C'est exactement.
Le plus jeune quarterback de l'histoire du Super Bowl. Et c'est fantastique. Pour lui, l'année dernière, il avait joué de très très peu devant Tom Brady avec les New England Patriots. Mais cette année, il a pris sa revanche et c'est une consécration. Il ne faut pas surtout oublier la consécration de son coach qui, là, depuis 22 ans, avait perdu le Super Bowl avec les Philadelphia Eagles et qui gagne son premier Super Bowl aussi de sa carrière d'entraîneur.
Alors, Eugène, justement, parlant de football américain, on connaît l'engouement que ça suscite ici aux États-Unis, mais jusque-là, les Américains, on va dire, ont du mal à exporter leur football, surtout en Afrique.
Oui, et c'est dommage parce que, bon, moi, par exemple, j'ai toujours pensé avec Africa Education Sports, qui est une organisation que j'ai qui aide souvent les basketteurs africains à faire des études aux États-Unis. Dans mon esprit, il y a toujours eu cette idée de voir comment importer le football pour permettre à certains joueurs africains de maîtriser la technique de ce sport afin de pouvoir aussi bénéficier de bourses pour venir faire des études ici. Et je pense que bon, le problème en Afrique, il est connu, nous ne sommes pas assez organisés. On n'a pas une politique de sport en général dans l'ensemble des pays. Pour preuve, les joueurs de football, pour évoluer professionnellement, sont obligés d'aller en Europe. Il n'y a pas de ligue professionnelle en tant que telle, même s'il y en a une en Afrique du Sud et dans certains pays d'Afrique du Nord. Mais le talent, vous voyez des pays comme la Côte d'Ivoire, les pays comme le Cameroun, Nigeria, il n'y a pas de championnat professionnel. Et je crois que c'est le problème du sport en Afrique, malheureusement, n'est pas pris sérieusement. On prend le sport comme une perte de temps, alors que le sport est un vecteur de développement socio-économique, c'est aussi un business. Et je crois qu'il faut changer cette mentalité. Bon, bien sûr, le football américain, la différence, il est un peu plus cher que le football. Le soccer, ce que nous jouons, puisque le matériel coûte un peu plus cher, mais je suis convaincu que c'est quelque chose qui peut être facilement importé, d'autant plus que les gens jouent au rugby, par exemple, en Afrique.
Alors, Eugène, justement, que ce soit le football américain, que ce soit la NBA, donc le championnat de basketball, lorsqu'une équipe gagne ici aux États-Unis, on la qualifie de championne du monde. Dites-nous pourquoi.
Non, franchement, bon, écoutez, les Américains pensent toujours que le monde, c'est les États-Unis. qu'ils sont le monde. Et bon, peut-être, est-ce que c'est parce que c'est un pays d'immigration que les gens viennent de partout du monde et de par conséquent, ils pensent qu'ils sont les champions du monde, ou alors c'est juste un esprit de domination, une façon de penser qu'ils sont les meilleurs dans toutes les choses. Je pense que ça fait partie de la culture. Pour l'Amérique, ils sont les meilleurs dans tout. Ils sont le numéro un. Si c'est eux qui conduisent, c'est eux qui sont les leaders du monde. Et donc, par conséquent, lorsque quelque chose est fait chez eux, obligatoirement, ils sont les meilleurs. Or, le football américain n'est pas joué, par exemple, dans nos pays. Si on prend le soccer, ils ne sont certainement pas les meilleurs au monde. Ils sont les meilleurs au basketball et c'est normal. C'est un sport qui a grandi ici et ils ont développé ce sport à un niveau très élevé. Ils sont les meilleurs au baseball. Ça, c'est encore à voir puisque lorsqu'il y a des compétitions internationales de baseball, ils sont quelquefois battus par des pays asiatiques ou par exemple Cuba qui fournit d'énormes athlètes dans ce sport. Bon, je pense que c'est une mentalité et pour eux, on dit toujours American number one, non numéro un. Et donc par conséquent, je pense que c'est ça qui fait d'eux, qui leur fait penser qu'ils sont les meilleurs au monde et que leur équipe sont les meilleurs du monde lorsqu'elle gagne un titre.
Merci Eugène Pewa Pelema, donc qui intervenait depuis ici aux États-Unis pour nous parler de ce championnat de football américain. On va le rappeler encore, remporté la nuit dernière par les Chiefs de Kansas City. Eugène, on va le rappeler aussi, est un spécialiste du sport, notamment du basketball. Et comme il le disait tout à l'heure, eh bien, il aide les jeunes Africains ici aux États-Unis à s'insérer et dans le basket et dans les études. Merci encore Eugène. Vous suivez Sporama sur VOA Afrique. L'émission revient tout de suite. Actualité sur le continent, nous commençons par ce séminaire CAF-FIFA qui a accueilli la ville de Salé au Maroc sous le thème développement des compétitions et des infrastructures footballistiques en Afrique. On va écouter tout de suite le président de la FIFA, Gianni Infantino.
C'est bien d'avoir dans les grandes lignes un soutien du monde du football africain pour les sujets qu'on a présentés, pour la professionnalisation de l'arbitrage, pour les investissements dans les infrastructures et finalement pour des nouvelles compétitions en Afrique qui peuvent avoir un vrai impact dans le monde entier comme justement une ligue professionnelle africaine de clubs. On a reçu un bon soutien, un soutien important pour poursuivre les débats.
Gianni Infantino, président donc de la FIFA, des propos recueillis par Amine Birouk donc au Maroc. Et cette conférence a été marquée par la proposition du président justement de la FIFA de disputer la CAN tous les 4 ans au lieu de tous les 2 ans pour augmenter, dit-il, les revenus et permettre aux pays hôtes de mieux se préparer. Alors Amine, on va dire simplement que c'est une proposition qui refait surface.
C'est une proposition qui refait surface et elle vient à la lumière des derniers changements dans le calendrier FIFA. Sachez qu'il y a une Coupe du Monde des clubs tous les 4 ans. Elle va venir empiéter régulièrement sur le calendrier de la CAN et on cherche des aménagements. C'est peut-être aussi la conclusion de l'audit de Fatma Samoura parce qu'il y a un travail qui a été effectué en amont. Pendant 6 longs mois, on a travaillé sur 3 axes. Tout ce qui est process administratif et financier, tout ce qui concerne le développement du football en Afrique et puis tout ce qui est refonte des compétitions continentales. Sachez aussi que c'est une proposition qui va dépasser le cadre du continent africain parce qu'il y a une cellule de réflexion à laquelle appartient le président du TP Mazembe qui est présidé par Florentino Pérez, le patron du Real Madrid. Et parmi les propositions, et c'est d'ailleurs ce qui a mis un début de conflit ou qui a provoqué un début de conflit entre l'UEFA et la FIFA, c'est une ligue européenne fermée à laquelle souscriraient les clubs les plus richement dotés. Donc on est dans un projet de globalisation qui est piloté par la FIFA, qui ne cadre pas seulement avec le football africain. Et donc parmi les pans de cette réforme, il y a cette refonte du calendrier de la CAN. De fait, aujourd'hui, il est curieux d'avoir, par exemple, dans un sport émergent comme le futsal, une compétition continentale une fois tous les 4 ans, alors qu'elle a besoin d'un coup de boost, alors que la CAN, qui est ancrée dans les traditions, qui a produit de très nombreux joueurs et qui existe dans le calendrier de la CAF, se produit ou se déroule tous les 2 ans. En tout cas, ce n'est qu'une proposition. Elle fait partie de ce projet que veut porter Gianni Infantino en collaboration avec la CAF. On verra maintenant si les instances du football africain, en particulier le comité exécutif, va être attentif à cette proposition et va surtout emboîter le pas à cette proposition du président de la FIFA.
Alors, Jules, la CAN tous les 4 ans, pensez-vous que la CAF va finir par céder?
Non, la CAN, c'est la compétition phare en Afrique et c'est plus qu'une compétition africaine, c'est une rencontre des peuples. Et quand on voit toutes les compétitions et relevés qui se passent dans le monde, aucune n'a cette chaleur dans les tribunes, dans les villes, et pendant que les compétitions se jouent comme la CAN. Donc je pense pas que cela pourra porter préjudice à la compétition qui se joue tous les quatre ans. Et ça permettra aux pays organisateurs de mieux se préparer et aussi de supporter le coût actuel de la CAN à 24. Parce qu'il y a très peu de pays qui peuvent se permettre d'abriter la CAN, car après tout, le football, c'est quelque chose qui a été démocratisé. Il faudrait que toutes les nations puissent rêver un jour organiser la CAN.
Et donc, Infantino a aussi proposé de prendre les 20 meilleurs arbitres africains pour les accompagner dans leur professionnalisation et leur donner donc des contrats à durée indéterminée pour un meilleur arbitrage des matchs sur le continent. Alors, Amdine, pensez-vous que cela puisse contribuer à sortir l'arbitrage, on va dire africain, de l'ornière sur le continent?
Je ne pense pas. Il y a un arbitre, même si c'est le PS, il est en but, il ne doit pas être en contact envers les arbitres africains, puisque quelqu'un.
Et donc, c'est difficile d'établir la liaison avec Amdine Sy, qui va devoir donc se retrouver dans une position beaucoup plus agréable à l'écoute, et donc surtout pas de haut-parleurs. Infantino a aussi réitéré sa volonté de voir créer une Super Ligue africaine composée d'une vingtaine donc de clubs parmi les plus puissants du continent. Et cette Super Ligue remplacerait la Ligue des champions actuelle et permettrait de générer 3 milliards de dollars de revenus sur 5 ans. Le président de la FIFA exige que les clubs participants apportent une garantie financière et s'engage à investir surtout 20 millions de dollars par an sur 5 ans pour développer donc leurs infrastructures, leur équipe féminine, leur équipe de jeunes, etc. Alors, Valdo, est-ce que tout cela ne paraît pas trop surréaliste?
Ah ben oui, surréaliste, une garantie financière, c'est ça le problème. Financièrement, qu'est-ce que représentent les clubs au niveau africain? C'est à compter du bout des doigts, surtout au sud du Sahara, pour avoir un club IP, un club qui peut bien sûr rencontrer les propositions du président de la Fédération internationale de football, l'association. C'est surréaliste, mais attention, tout concourt au fait qu'il est en train de chercher à ramener les clubs à un certain seuil, à ramener les clubs à avoir un peu plus d'argent aussi, à ramener des compétitions à être rentables. Tenez, par exemple, pour participer au championnat au niveau de l'Europe, il faut qu'il y ait des garanties à un certain seuil sur le plan financier pour pouvoir prendre part, par exemple, à la Ligue 1. Rappelez-vous, il y a une certaine époque où l'Olympique de Marseille était redescendu en deuxième division, cherchait monter en première division, mais il n'avait pas de garantie financière, il n'a pas pu jouer la Ligue 1. Et c'est peut-être par rapport à ça qu'Infantino est en train de voir, chercher comment ramener les clubs, mais financièrement, l'Afrique est très loin. Même au niveau des clubs, c'est encore des individus qui prennent en charge des clubs, ce n'est pas des structures. Vous voyez, par exemple, le tout puissant Gaber Mazembe, vous avez Moïse Katumbi. Si Moïse lâche l'équipe, ça risque d'être très compliqué, très complexe. Il en est de même pour l'Esvita Club, qui est aujourd'hui dirigé par un général. Si ce général-là laisse l'équipe, c'est très compliqué. Il n'y a vraiment pas de structure forte capable de pouvoir porter le club. Donc il faudrait également songer à ce que ça redevienne des structures, ces clubs-là, pour que tout va dans le sens de ces propositions.
Elle était chargée de faire un audit général donc de la CAF afin d'évaluer la situation actuelle au sein de la Confédération et de contribuer à l'accélération du processus de mise en œuvre des réformes en cours destinées à assurer à la CAF un fonctionnement de manière transparente, efficace et selon les standards de gouvernance les plus élevés. Et bien, 6 mois après, Fatma Samoura, la secrétaire générale donc de la FIFA, nommée déléguée générale pour la CAF, pour l'Afrique disons, est en fin de mission. Une note rendue publique par la CAF a confirmé la fin du travail de la Sénégalaise. Alors, Amine, ce qu'on ne dit pas clairement, est-ce que Fatma Samoura va quitter ou pas la CAF et le Caire?
Ce qui est certain, c'est que la mission prend fin. Et si on s'en tient au texte qui a été produit par la Confédération africaine de football, sa mission prend fin et elle va quitter le Caire. Et devrait normalement retrouver son quartier général à Zurich. L'essentiel, c'est qu'elle a fait un travail de fourmi, qu'elle a pu débroussailler tous les obstacles qui se dressaient devant la Confédération africaine de football et que cette coopération a été fructueuse et surtout efficace. Parce que s'il n'y avait pas une coopération entre les instances du Caire et celle de Zurich, si les deux parties n'avaient pas tiré dans la même direction, le mandat aurait été prorogé et on en serait aujourd'hui à parler de conflits ou de bras de fer. Aujourd'hui, les process sont en place et d'après les informations informations que dont je dispose, puisque j'ai pu rencontrer quelques responsables de l'administration de la CAF qui étaient présents ici à l'ouverture de la CAN de futsal à Laayoune, cette coopération a été tellement efficace qu'aujourd'hui, le projet sur l'arbitrage est déjà mis en place et il devrait marier celui être calqué sur celui proposé par la CAF. La refonte des compétitions se fait, puisqu'aujourd'hui, la commission interclub n'est plus seulement une commission interclub, mais c'est aussi une commission pour l'octroi de licence. Donc, les clubs vont devoir proposer proposer des garanties, et surtout, si ces garanties n'existent pas, ils ne pourront pas obtenir de licence. Donc, s'il y a un endettement, s'il y a des litiges auprès des instances internationales avec des contrats de joueurs non validés ou honorés, il y aura toujours cette licence qui sera l'épée de Damoclès sur la tête des clubs. Et puis, il y a tout ce qui est coopération, tout ce qui est propagation ou développement du football, de la pratique du football, notamment du football féminin, du football assimilé, beach soccer, futsal, etc. Donc, il y a un travail en amont qui a été effectué. Les deux instances ont tellement bien coopéré qu'aujourd'hui, la mission prend fin, alors qu'on pouvait s'inquiéter, outre mesure, de la durée de la mission de Fatma Samoura. Aujourd'hui, il y a aussi cette idée qu'on peut chasser, concernant le fait qu'il y avait une mise sous tutelle de la CAF, que certains tiers-mondistes pouvaient créer à tort ou à raison qu'après 60 ans des indépendances africaines, ce n'était pas concevable. Aujourd'hui, cette mission de coopération a duré dans un laps de temps qui était fixé à 6 mois. Elle n'a pas été prorogée. Ça veut dire tout simplement que tout a fonctionné. Ce n'est peut-être pas idyllique à 100%, mais l'essentiel, c'est que les chantiers du football africain ont été mis en place. Ils ont été mis sur des rails assez positifs. À la CAF maintenant de prendre les choses en main et de continuer dans la même direction.
Alors, Jules Amine, le disait si bien, c'est peut-être la fin de cette mise dévoyée sous tutelle de l'instance africaine de football.
Oui, mais il faut dire que quand la décision a été prise de mettre la CAF sous tutelle, il y a eu beaucoup de commentaires tout autour, mais il faut savoir qu'on avait une situation délétère qui relevait de la nouvelle élection du président Ahmad Ahmad dans les conditions un peu conflictuelles. Bon, alors, donc, automatiquement, les clans se sont formés et parfois on a oublié le football et son arrivée a permis, en quelque sorte, de ramener les choses sur le terrain technique. Et là, je crois que c'est pour ça qu'on peut parler d'un certain succès et même d'un succès certain. Bon, et je pense qu'en partant de ces bases, on peut plus sereinement travailler sur le long terme.
Merci donc, Jules Valentin Ngwe. Alors, Valdo, Jules le disait, pensez-vous que Fatma Samoura ait réussi simplement sa mission au sein de la CAF?
Bon, il a réussi, oui, mais moi je comprends sa mission par le fait que la FIFA avait ramené la Confédération africaine de football à l'instance de l'UEFA. C'est chercher un nivellement vers le haut pour permettre parce que tout fonctionne normalement. Vous le savez, quand Ahmad Ahmad est arrivé, il y a eu trop de tergiversations en termes d'organisation, en termes d'arbitrage, en termes de caler des dates, il y a des reports de compétition. Tout ça là, ça n'honore pas le football. Ce n'est pas la beauté du football comme on l'aime. D'où il faut mettre de l'ordre à la CAF et je pense bien que Fatma Souda a été en Afrique pour pouvoir faire une autopsie et il y a des résolutions qui sont là, on laisse maintenant à la CAF d'apprécier, mais en définitive on doit chercher à ramener le fonctionnement de la Confédération africaine et ses compétitions au même niveau, sinon à plus de 60-70% de ce qui se passe au niveau de l'Europe.
Parlons à présent des compétitions interclubs sur le continent et nous commençons par la Ligue des Champions. Les 6 qualifiés pour la compétition étant connus avant cette dernière journée, tout l'enjeu se trouvait dans le groupe B. Finalement, ce sont l'Étoile du Sahel et Al Ahly d'Égypte donc qui se sont qualifiés pour les quarts. Les Tunisiens se sont imposés à domicile 2-0 devant Platinum FC et Al Ahly se sont neutralisés 1-0. Alors, au terme de cette phase de poule, lorsqu'on fait le bilan, on se rend bien compte que les clubs qualifiés pour les 8e de finale sont l'Espérance de Tunis, le tout-puissant Mazembe, le WAC, Mamelodi Sundowns, le Raja Casablanca, le Zamalek, l'Étoile du Sahel et Al Ahly. Alors, Amine, le constat est clair, 6 clubs de l'Afrique du Nord en quart, un de l'Afrique du Sud et un autre de l'Afrique centrale. On va dire la domination de l'Afrique du Nord dans cette compétition de la Ligue des Champions se poursuit.
C'est une tendance qui se poursuit depuis de très nombreuses années, égard aux conditions financières dans lesquelles se trouvent les clubs d'Afrique du Nord, aux infrastructures, au vécu. Et puis, on a deux îlots. C'est le TP Mazembe qui continue à avoir cette histoire d'amour avec les compétitions africaines et qui est un des clubs les plus structurés. Et puis Mamelodi Sundowns. On remarquera aussi qu'il n'y a que des anciens vainqueurs de la compétition. Donc aujourd'hui, c'est l'édition la plus relevée de la Champions League. On attend avec impatience le tirage au sort qui aura lieu dans 48 heures pour déterminer les possibles quarts de finale.
Alors Jules, Amine le disait tout à l'heure, le constat est également peut-être alarmant pour les clubs, notamment de l'Afrique de l'Ouest, qui piétine jusque-là.
Oui, mais c'est qu'au sud du Sahara, il y a un problème financier, comme disait Amine. Il y a également donc une tendance de footballeurs vers les clubs disons que européens pour tenter leur chance, parce qu'il y a une dénivellation entre les conditions dans lesquelles ils jouent en Afrique et celles qu'on trouve dans les pays qui respectent les standards. Et dans l'Afrique du Nord, qui a toute une histoire, une grande avance sur le reste de l'Afrique, avec des clubs historiques et une organisation assez proche de l'Europe, ne peut qu'être réellement en pole position dans la mesure où des joueurs jouant dans les championnats nord-africains intègrent et se sont directement au niveau du jeu qui se pratique en Europe quand il passe de l'autre côté de la Méditerranée, alors que ce n'est pas toujours le cas pour les joueurs venant du sud du Sahara qui ont beaucoup de fondamentaux même à remettre, disons, à régler. Donc je crois que c'est une évolution normale pour le moment et le football rime maintenant également avec l'argent et donc il faudra au fur et à mesure avoir des mécènes, des personnes réellement décidées, des sociétés qui peuvent épauler aussi les équipes au sud du Sahara pour qu'elles essaient de rattraper leur retard.
Merci. Jules Valentin Ngoué, les quatre derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération, c'est également connu. Et désormais, on a les huit qualifiés pour cette Coupe: CAF, Pyramide, Al Masry, Oroya, Al Nasr, Renaissance Sportive de Berkane, Zanaco, Hassania Agadi et Enyimba. Et Amine, une fois de plus, le disait tout à l'heure, le tirage au sort des quarts de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des Champions aura lieu ce mercredi, donc 5 février. Alors Amine, sans transition, très rapidement avec vous, on parle de cette compétition de futsal qui a lieu présentement à Laayoune. Les demi-finalistes sont connus, mais surtout l'île Maurice s'est retirée de la compétition sur ordre de son gouvernement.
Mais c'est dommage que la politique vienne s'ingérer une nouvelle fois dans le football. Et c'est d'ailleurs ce qu'a constaté le président de la Fédération mauricienne, qui a tenu à présenter ses excuses. Aujourd'hui, la CAF a sanctionné les deux fédérations, d'Afrique du Sud et de l'île Maurice, avec une interdiction de disputer la CAN de futsal pour deux éditions consécutives, plus une forte amende. On espère maintenant que le jeu l'emportera sur les enjeux qui n'ont rien à voir avec le sport. Aujourd'hui, nous avons quatre beaux demi-finalistes. Le Maroc qui affrontera l'Angola et puis l'Égypte face à la Libye. L'enjeu, c'est déjà les trois sésame pour la Coupe du Monde. Et puis l'enjeu final, c'est vendredi prochain, savoir qui succédera au Maroc. On se dirige vers un remake de la finale de 2016 entre le Maroc et l'Égypte. Mais attention, on n'est pas exempt de toute surprise, car l'Angola a un sacré coup à jouer.
Alors Valdo, on parle de boxe avec vous pour finir très rapidement en 30 secondes. Ilunga, le boxeur junior Ilunga Makabu, champion du monde WBC, vainqueur au point du Polonais Ceslak.
Ah ben oui, c'était très attendu ici à Kinshasa, et une première pour un Congolais, et battre les Polonais ici à Kinshasa, c'était une très très grosse performance pour le Congolais qui n'a pas eu la tâche facile. Il a été malmené pratiquement lors des trois premiers rounds, mais il a réussi à se ressaisir et finalement gagner au point après 12 rounds. Il a d'abord réussi à passer les caps des 10 rounds aux Polonais et au 12e round il a fait la différence. Voilà, il a été sacré dans une très très grosse performance pour les Congolais qui va ainsi continuer, qui permet la RDC de compter également un champion du monde WPBC, et c'est un exploit qui...
Merci bien Valdo depuis Kinshasa. Sporama donc qui s'achève ici, à la réalisation Joselle Mauricien, devant ce micro Yacouba Ouedraogo. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Tout de suite le journal avec Abdourahmane Dia.